Otis, qui est déchiré entre les projets ambitieux que sa mère et son entraîneur nourrissent à son égard, et sa récente rencontre avec un garçon qui partage cette même passion pour ce sport. Voilà, ça, le premier film en tout cas, c'est à 20h30 à la Maison des Arts de Créteil, donc vendredi, pour l'ouverture du festival. Je pense que...
Je pense que mon morceau est calé. Merci voilà. Serge, au revoir. Allez, à la prochaine.
Allez, allez, musique. Salut.
Très bien, c'était très bien.
Merci.
Elles vont être super contentes à Créteil.
Oui, je pense, oui.
Ouais, t'as bien fait. Post-non-radio show. C'est le Catastrophe Club ce soir. Radio Libertaire. Ouais, Radio Libertaire. Alors, messieurs les malfaisants.
Oui. Est-ce que je peux ajouter, puisqu'on vient de parler du festival du film de femmes.
Ah bah tu t'es investi, on dirait.
Oui, je vais juste donner les détails pratiques.
Bon alors dis-moi, tu couches avec Marc.
La conversion du siècle.
Alors, donc voilà, je suis complètement déstabilisé, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Bon, ça se déroule donc à la Maison des Arts de Créteil, place Salvador Allende. Allende. Si, on dit Allende, non?
Oui, on dit Allende.
On dit Allende en espagnol.
Ouais, oui. Ça va.
Allende, oui, oui.
Pas la peine de mordre.
Là, je croyais qu'il parlait chilien au Chili.
Donc, voilà, pour. Il faut se renseigner sur le www.filmdefemmes.com. et la Maison des Arts de Créteil. Alors, c'est le métro ligne 8, station Créteil-Préfecture. Il faut d'abord accéder au centre commercial par la sortie droite du métro, traverser le centre commercial, ressortir porte 25. C'est proche de Carrefour au même niveau, pour rejoindre la place Salvador Allende. Voilà. Ouais. Il y a un retour gratuit en navette assuré en soirée, dans la limite des places disponibles. Voilà. Jusqu'à la place de la Bastille et celle du Châtelet. Voilà.
À l'âge de Maps, je suis surpris qu'il n'y ait pas un QR code à la place de toutes ces applications.
Pour l'instant, mais... non. Je n'ai pas vu de QR code sur la documentation. Non. Donc voilà. Donc je n'ai pas vu. Je sais que, par contre, je peux préciser qu'il y a notamment comme personne intervenante Léa Drucker, Sophie Filière, Monica Treut et Vanessa Springora, par exemple, et également Marie-Anse Luciani qui est productrice. Donc voilà, toujours à la Maison des Arts de Créteil. Donc voilà, pour Léa Drucker, donc c'est de toujours à la Maison des Arts de Créteil. C'est donc samedi 16 mars de 15h à 20h30 et donc il y a une masterclass à partir de 15h30 et ensuite un film avec Léa Drucker bien sûr à 20h30 et puis pour Vanessa Springora, puisque c'est une des femmes les plus représentatives, excusez-moi.
Tu prends les choses à cœur.
Voilà, donc voilà, c'est mardi 19 mars à 15h30, avec un 15h30, une table ronde sur l'adaptation au cinéma. Voilà, avec Vanessa Springora et le collectif des scénaristes de cinéma associés. Voilà. Et à 17h30, ce sera suivi de la projection du film Le Consentement de Vanessa Filio en présence de Vanessa Springora. Bien sûr, voilà. J'ai tout dit. Ça a l'air intéressant, effectivement, pour tout le monde.
Voilà. Oui, à part qu'on risque de se perdre là. Dans l'espèce de souterrain, va à droite et puis tourne à gauche.
Ah bah oui, oui. Moi, je suis déjà allé à Créteil, je vois à peu près ce que c'est.
Voilà, non, mais tu nous racontes ta vie, là.
Donc voilà.
Il habite à Bamark. Ok, d'accord.
Non, j'avais des amis à Créteil, c'est pour ça. Donc voilà. Je crois qu'on peut aborder avec changer un peu avec Yves éventuellement quelques articles sélectionnants.
Oh, il va mettre un
fraîchement
disque.
Sélectionné.
Ouais, mais lui la pression là.
Il va mettre un disque pour m'empêcher de parler.
Non.
Non.
Il faut alterner un peu.
Ouais, j'ai un truc rigolo. Truc que j'ai trouvé rigolo dans le Canard enchaîné du mercredi 6 mars 2024. Il parle Arabie Saoudite, c'est comme ça qu'on dit ? Non, pas tout à fait. Hein.
Non, mais Saoudite.
C'est une révolution. Alors que sa consommation est interdite sur l'ensemble du territoire saoudien depuis 1952, de l'alcool va bientôt pouvoir être vendu dans un magasin du quartier diplomatique de Riyad.
Ah oui, oui, oui.
Youpi ! Avec quand même quelques restrictions, d'après l'Express du 29-2. La vente sera, ouvrez les guillemets, hein, la vente sera strictement encadrée, réservée aux non-musulmans, lesquels devront s'inscrire sur une application pour mobile, recevoir un code de l'administration et respecter un quota mensuel. Alors, le Canard conclut que c'est pas pour demain le remplacement de la répression par les demi-pressions.
Quel jeu de mots.
Oui, c'est assez drôle, ça m'a amusé, dis donc, je me suis dit, ça va peut-être amuser également les auditeurs, puis je me suis dit, mais une application pour... mais en voilà une bonne idée, que personne n'a encore pensé, pour les J.O. Qui viennent... Pour sélectionner les spectateurs, on a une application, on demande, et on demande 15 kilos bits, évidemment, de renseignements sur chaque personne, de façon à sécuriser
Les abords des manifestations.
Des gens qui... Ah, je suis étonné que notre ministre, super ministre, n'ait pas encore pensé à ça. Mais enfin bon, je plaisante, mais l'affaire est sérieuse. Et sinon, j'ai une histoire de guerre des camemberts qui est assez drôle aussi. C'est sur Lactalis, mais je ne sais pas si ça vous intéresse.
Si Lactalis, qui est une espèce d'entreprise... Pas fréquentable en fait.
Dans les 45 voilà. milliards de bénéfices.
Voilà, vraiment pas.
Et qui.
D'ailleurs, qui ne communique jamais. Hein,
et qui reprend le lait.
On n'a jamais vu d'interview ou entendu une interview d'un responsable de Lactalis. Jamais.
Oui.
Ah, ça pour presser le citron des agriculteurs,
non,
ils le font.
Pour presser le pi.
Alors donc, l'année dernière, le groupe avait mis 70 millions d'euros pour équiper son site de Donfront dans l'Orne, qui fabrique le camembert président, pour équiper son site d'un coagulateur géant de 77 mètres de long. Donc ça lui a permis de doubler la production.
Qu'est-ce que c'est qu'un coagulateur?
C'est un appareil qui permet de faire coaguler. Tu mets du lait et à la fin tu as du camembert en tube. Enfin bon, bref. Ce qui a permis de doubler la production est désormais la plus grosse usine de calendos du monde. Crache 550 000 boîtes de président par jour.
Oui, oui. Dis donc.
Combien? Wow. 550 000
boîtes de président par jour. Quand tu penses qu'on...
Alors ça, c'est pour l'exportation, alors.
C'est pas possible. 550 000...
C'est pas 150 000
boîtes par jour.
550 000 boîtes de président par jour, à raison de 10 par seconde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec ces camemberts...
Mais on n'en bouffe pas autant.
Ben oui, mais ça va à l'export, ça.
C'est-à-dire que ceux-là, ils sont à environ 2 euros de kilo... 2 euros la boîte, pardon, alors que... ceux que j'aime bien, moi, ils sont aux environs de 4 euros. Hein.
Oh, le Richard.
Mais c'est pas ça, mais c'est le mode de fabrication. Bref, je continue mon petit articulé.
Oui.
Qui s'appelle La guerre des camemberts, pour tout dire. Avec ces camemberts, donc le leader mondial des produits laitiers, quand même, hein, boit du petit lait. Depuis la guerre en Ukraine et la flambée des prix dans les rayons, les Français se ruent sur la camembert industriel. Il est tellement bon, et puis surtout, il reste à moins de 2 euros. Bon. Si Lactalis casse les prix, c'est non seulement parce qu'il produit à la chaîne dans les usines ultra-robotisées, mais aussi parce qu'il achète son lait aux éleveurs pour des clopinettes, c'est-à-dire 45 euros la tonne, quand une petite coopérative comme c'est qui le patron, qui est une coopérative donc, la paye 450 euros. Les agriculteurs en colère enchaînent donc les opérations coup de poing contre la multinationale dont le siège et plusieurs fromageries ont été bloqués ces dernières semaines. Sans compter les petits producteurs de calendos normands qui viennent les chercher des grumeaux. Ces derniers fabriquent chaque année 6000 tonnes de camembert moulé à la louche. Alors je sais pas combien ça fait de boîtes par contre. Parce que la conversion n'est pas... le système de conversion, il faudra regarder sur internet, convertisseur de tonnes en boîtes de camembert. Bon, bref, 6000 tonnes de camembert moulé à la louche au lait cru de vaches normandes, ce qui leur vaut l'estampille camembert de Normandie AOP. Hors de question que Lactalis, qui usine 90% des pâtes molles pasteurisées avec du lait pas toujours normand, tamponne sur ses boîtes la mention aguicheuse fabriquée en Normandie au prétexte que ces usines y sont localisées. C'est ce qu'ils avaient obtenu. Et donc le 9 juillet 2020, la répression des fraudes a donné raison aux éleveurs laitiers AOP et a enjoint à Lactalis et consorts de modifier les étiquettes sous 6 mois. Le syndicat des industriels du camembert, piloté par Lactalis, a illico saisi le Conseil d'État, qui lui a donné un coup de louche, arguant du risque de confusion pour le consommateur. Le roi du calendos s'est remonté au créneau et la plus haute juridiction administrative a décidé cette fois que la mention fabriquée en Normandie pouvait être autorisée au cas par cas, en tenant compte de l'antériorité des marques. Patatras, le 14 février, le tribunal administratif de Caen, saisi par la marque Président, a, pour des raisons uniquement procédurales, annulé l'injonction de la répression des fraudes.
Des fraudes.
Des fraudes. Et donc, ni une ni deux, c'est à force de regarder une chaîne où il y a un certain fraude, bref, ni une ni deux, l'association Fromage AOP de Normandie est repartie à l'assaut en justice et la guerre des camemberts n'est pas finie. Voilà.
Mmh. Eh ben, tiens-nous au courant pour la suite.
Ça,
hein.
C'est confit de canard.
Mmh. On est,
je ne sais jamais qui est l'auteur. L'auteur n'est jamais marqué. Mmh.
Bon. C'est mais tout est à sujet et tout est sujet à conflit, bordel.
Alors 500
même les fromages
de par jour, ça vous a épaté apparemment.
On est bouche bée là.
Époustouflant.
Ouais. Non mais c'est incroyable. Tout est sujet à conflit dans la société. Même les gens qui font du fromage, ils se battent entre eux. C'est dingue.
C'est pas pour rien qu'on dit qu'on en fait tout un fromage. Voilà.
Oh là là, vite un morceau avant qu'on sombre.
Allez, vas-y, envoie-nous-le.
On sombre dans les grosses têtes.
Allez.
On kõrbes valge, valge, valge liil ja üks mees, kes viib ka melite karavani nii pikka hommik päev öö on ainsad ajamärgid need on sidunud meesti siin ja üksi kaunim on haare, mis neid päike tundub kuuvaid stopp, seisku aeg nii kaebleb neid see kaamel siin Jutta aivan meid viib. Nüüd stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. Jutta aivan meid viib, meid juh viib, meid juh viib, meid juh viib. On mul laillimu siin, kiirus on tohutu, õhus kuid on surmav kaas. Ja mu mees, kes istub kõrval, hoiab rooli. Kõik ma olen saanud, mis jaales olen ihkand kodul luksimaga, hingel on külm. Ma uurin silmanurgast mees, kes vaatab ainult teele. Stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aevan meid viib. Nüüd stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meil viib. Meid juh viib, meid juh viib, meid juh viib. Siin kuhu viib ette, kui kõikel katastroofid metalli karvis kinni me. Üksi karavan teele ette jäi, ongi aega. Stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meil viib. Nüüd stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meil viib. Nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meid viib. Nüüd stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aeva meid viib. Meid juh viib, meid juh viib, meid juh viib. Stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. Nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta
de poste non-radio show, radio libertaire, de Catastrophe Club. This night, tonight show. Alors, en quelle langue chante cette dame?
C'est une dame?
Ah, j'en ai aucune idée. Bah, si, bien sûr, c'est une dame.
Ah, je pensais que tu mais parlais du crapaud, là. Je croyais que c'était une blague.
Oh, mais qu'il est.
Ah, la dame du disque précédent, mais j'étais à la masse, excuse-moi.
Alors, oui, bien sûr, c'est la soirée des dames.
En quelle langue chante?
En quelle langue?
En islandais.
Cette dame qui s'appelle. Est-ce que Guy a une idée?
Non.
Toi qui as fait le tour de l'Europe.
Du monde même.
Du monde, d'ailleurs, non, oui, c'est vrai. Oui,
tu peux nous donner un indice?
Non.
Elle s'appelle Veli Junas.
Basque.
C'est par là, pays balte.
Ah. Pays balte, ah oui.
D'accord.
Je crois que c'est un pays balte.
Mm-hmm. Pourquoi c'est lequel?
C'est l'Estonie.
C'est ben oui, c'est un pays balte.
Oui, c'est un pays balte, bien sûr.
Cette dame est estonienne, enfin je ne sais pas si elle est encore vivante. J'ai pas été vérifié. Veli Junas, un super 45 tours que j'adore, qui est paru en 2015. Stop Seiskueg. Veli Junas est une chanteuse. Alors j'ai une traduction des notes de pochette que j'ai faites, mais alors c'est un peu du n'importe quoi. Mais en tout cas, elle a commencé dans les années 70 à chanter. Et en fait, ensuite, elle a fait dans le folk. Mais son style de prédilection qu'elle aimait beaucoup, c'était la soul music. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez remarqué un peu le morceau.
Oui, il est un peu soul.
Oui. Et d'ailleurs, les deux titres du 45 tours qu'on écoutera l'autre aussi sont des reprises de titres américains. Celle-ci, c'est une reprise de Jim Rafferty, mm-hmm. Dont elle a fait les paroles.
Elle est de Riga, alors?
Non, elle n'est pas de Riga, elle est née dans une ville qui s'appelle Torvatuena.
D'accord, d'accord. Oui.
Elle vivait plutôt à Tallinn.
Mm-hmm. Tallinn. D'accord.
Oui, Tallinn.
En Estonie.
Elle a beaucoup tourné en URSS dans les années 80.
Oui.
Avec son groupe, elle était entourée d'un orchestre. Elle a fait énormément de tournée, d'ailleurs avec aussi un orchestre russe dont elle tournait en URSS.
Ah oui, d'accord, du temps du mur, quoi, en fait.
Bah, c'était un pays frontalier, donc ils avaient beaucoup de relations entre eux, et donc elle devait être. Et donc c'est vraiment un petit 45 tours que j'aime beaucoup. Si je pouvais trouver un autre disque d'elle avec ses reprises ou ses morceaux soul. J'adore la façon dont elle le traite et comment c'est chanté, etc. quoi. Et juste avant, c'est un 45 tours de Mina Tindall, lui de 2011, dont on écoutera aussi la face. La face B, Mina Tindall aussi, j'aime beaucoup Mina Tindall. Et puis, en ouverture, deux morceaux instrumentaux. Alors là, c'est un peu particulier, c'est pas une femme. C'est des musiques de film, les musiques d'un film les musiques sont de Jean Claudic. Et c'est la bande originale d'un film de Christian Lara qui s'appelle Jeu de dames, thème la libération des femmes. Alors c'est un film plutôt érotique, on va dire, qui date de 1973. Alors d'aucuns me diront ah gna gna gna, bon c'est l'érotisme, c'est les femmes érotisées par un homme, etc. Oui, d'accord, ok, bon, mais bon, voilà, bref. La pochette est très belle. C'est un 45 tours qui est paru sur le label Born Bad Records, qui ont toujours un goût sûr et certain et exquis. Et Christian Lara, c'est un réalisateur guadeloupéen. Alors lui, il a fait tout et n'importe quoi. Il a fait dans l'érotisme, il a fait du porno, il a fait du pur divertissement, de la comédie, il a fait du film politique. Mmh. Et il a vraiment le spectre est très large. Hein. Et finalement, il a quand même eu, il a eu un prix aux États-Unis couronnant l'ensemble de sa carrière et surtout célébrant le fait qu'il était un des premiers cinéaste noir à parler de la cause noire, etc., de l'esclavagisme, la Guadeloupe, etc. Voilà, ça c'est pour les premiers titres. Bon, c'est un peu mélangé, machin, mais il n'y a pas que des femmes, il y a aussi Christian Lara, mais bon, jeu de dames, libération des femmes, donc voilà, ça pouvait quand même. Ça tombe pas à côté non plus. Mmh. Voilà, si quelqu'un veut rajouter un petit quelque chose, histoire que je change de disque, puisque je suis monoplatine ce soir.
Non, je trouve que l'enchaînement était très bon. J'avais commencé par l'Arabie Saoudite, tu continues par la soul music. Oui, oui. C'est bien vu.
Non, oui, bon, voilà.
Si tu veux continuer, Serge, dis-moi, dites quelque chose pour
toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, évidemment, c'était la journée, donc, évidemment, la journée internationale du droit des femmes. Il y avait une manifestation qui s'est déroulée, en tout cas, moi dans mon quartier, pas très loin, du côté de l'avenue Gambetta et de la rue du Chemin Vert. Au départ, je ne savais pas ce que c'était, mais effectivement, c'est tous les collectifs féministes. Il y avait notamment, il y avait des banderoles de... je ne sais plus si c'est Médecins Sans Frontières ou tout autre... Je crois que c'était Médecins Sans Frontières, en tout cas, qui effectivement rappelait le problème de l'excision des femmes dans certains pays. Et il faut le rappeler que c'est pas évident du tout, et que c'est un vrai scandale, quoi. C'est un vrai scandale. Donc ça reste un problème. Espérons que ce qui s'est passé justement il y a 3 jours, je crois, maintenant, oui, 3 jours, c'est-à-dire l'adoption à l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale du Sénat et de la
Congrès
et du Congrès, voilà, le Congrès entre, enfin, en tout cas, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale a voté effectivement la loi, l'ajout dans la Constitution du droit des femmes à disposer de leur corps. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très important, parce que avec ça, il risque d'y avoir des émules dans d'autres pays. Et aux États-Unis, par exemple, certains États ont reculé dans les droits des femmes en interdisant l'avortement.
Il y a quand même beaucoup de cons aux États-Unis.
Oui.
C'est un pays de dégénérés. Hein.
Oui, c'est vrai.
Faut le dire.
Mais et donc voilà. puis dans la c'est aussi plus proche de nous, par exemple, en Pologne, l'avortement était interdit.
Non, c'est aussi la Cour suprême aux États-Unis qui est revenue sur un truc qui a permis à certains États d'interdire l'avortement.
Oui, tout à fait. Mais par exemple en Europe, c'était la Pologne. La Pologne qui donc avait limité ou en tout cas interdit l'avortement. Ils sont revenus en arrière. Maintenant, c'est un gouvernement progressiste. Ce n'est pas un gouvernement conservateur. Et il y a même une évolution au niveau des droits LGBT. Et je me souviens avoir vu un reportage sur la télévision publique polonaise, qui était jusqu'à présent, quand elle était sous le gouvernement conservateur, la télévision polonaise, qui disait beaucoup de mal sur la communauté LGBT d'informations fausses. Et j'ai vu un extrait d'émission où un animateur de la télévision publique polonaise s'est excusé au nom de toutes les personnes LGBT d'avoir dit n'importe quoi sur la communauté LGBT et que le lobby LGBT n'existait pas et que le lobby LGBT, ce sont des prénoms, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des êtres humains. Et ça, ça m'a marqué, mais vraiment. Je crois que c'est dans...
Oui. Parce qu'ils avaient quand même réussi à faire des zones sans LGBT.
Sans, voilà, exactement, exactement. Et ça, et là maintenant, ils sont en train de virer tous les conservateurs de la télévision publique et en train de faire une vraie télévision publique et pas une télévision de propagande ou d'opinion. Voilà.
Ceci dit, le chef de l'État est toujours en place.
Oui, mais ça a changé. Il y a un rapport de force là. Ouais. Non, mais là, ils font le ménage à la télévision polonaise. Je suis vraiment ravi de ça. Ravi.
Parce que. En parlant de lobby LGBT, moi, j'ai vu des trucs récemment, enfin, récemment, il y a quelques temps, encore traîner sur Internet, en particulier YouTube, où t'as de multiples droitards et extrêmes droitards qui pullulent, qui d'ailleurs, entre parenthèses, sont pro-russes à mort et qui te ressortent des trucs, qui te sortent des trucs sur le lobby LGBT. Bon, donc t'as tous ces gens-là avec leurs fantasmes à peine déguisés, hein, c'est même pas du déguisé, c'est du frontal, hein. Donc ils sont encore là, oui, le lobby LGBT. Mmh. Ok, tout ça parce qu'il y a trois homosexuels à la télévision, qu'il y a une mamie, enfin il y a une espèce de fantasme et de raccourci, donc il y aurait une pieuvre LGBT, tout comme il y a une pieuvre franc-maille,
mais
etc.
Tout ça pour avoir le pouvoir. Tout ça pour avoir le pouvoir.
Et tout ça, non, mais tout ça en plus pour répandre leurs idées nauséabondes et réactionnaires et surtout hyper conservatrices. Je veux dire, les LGBT n'ont pas détruit la famille nucléaire traditionnelle, conventionnelle, un homme, une femme, etc. Il y en a toujours. Enfin, c'est beaucoup. Puis alors, sans parler de leur côté pro-russe, pro-Trump, ils sont saoulants à force. Je suis étonné du nombre de ces gens, de ces médias qui pullulent sur Internet. Et sur YouTube, c'est incroyable, incroyable. Et puis, c'est vraiment de la propagande à gros sabots. Alors, il y a des choses... je dis n'importe qui pourrait dire ça. Et puis il y a d'autres sujets, mais c'est pas possible quoi. Oui. Ça avance avec des sabots énormes quoi. Voilà, c'est incroyable. Je suis pas pro-européen, tel que se présentent les choses. Mais j'oubliais aussi un lobbying anti-Europe forcené. Hein. Donc l'Europe c'est le mal, Trump génial, enfin bref, voilà quoi. C'est incroyable. Donc bref, musique.
The elders call it the void, an abomination in concrete, carved from grey skies, gun crime, and paper parcels passed between the mouths of low-level gods. It grew, a shapeless void, breeding its own titans, symbiotic shapes evolving from shadow, mandibles maneuvering first words from swollen lips. We are here. Sitting on garage rooftop balcony, we observed our silhouettes 4 feet tall, shapes imprinted on walls by flashing black and red. Starlight spotlights illuminated our tall stories, truth spilling from our childhood in fairy tale language we could comprehend. Your brother was Tartarus, faceless, the abyss. The only way to hide from the underworld he desired to drag you to was on our 8 foot high stone sanctuary. So we hid. Blankets wrapped around shoulders, hoping and praying one day he would transcend to craggy stone caverns deep underground, so you would never again have to hide under your bed. In these caustic surroundings, we refused to burn, sating childhood casualties with Grecian tragedies. We named my father Kronos, devouring his children, only defeated by rocks that he smoked instead of ate, leaving a cortege of betrayed women in his wake, as I plotted ways to slit open his belly and spill his guts, saving my siblings from his legacy. We watched a defiled dystopia grow, saw street apocryphies holding court to the crowded masses, eyes wide, skin diamorphous, glowing translucent under flickering street lights. In this story, my sister is named Asteria. She sat night after night folding dying stars from newspaper strips, throwing them out of bedroom windows, still tired of running from titans who longed for her flesh. We tried to save her, but men seduced, wooed, and stole her. She never quite threw herself from that building, but after Zeus, she never really was the same. Our personal legends changed as we grew older, evolving with time, though they still reflected our nighttime perch. My father was no longer a titan, but a high-flying businessman, always traveling, luggage-packed, suit on, shiny shoes, and no, he definitely wasn't that bare-chested, tattooed, shoeless man who called my name as we walked quickly out of school gates. You couldn't leave your demons behind. Like Orpheus, you just had to look back. But instead of losing the one you loved, you lost yourself, never returning across the river Styx, body hanging from a rope you condemned yourself to, a swaying specter always in my peripheral vision of everyday life. Though in my mind, you're still my Odysseus, wily and intelligent to the end, building Trojan horses for us to hide in as we write our very own Hackney Iliad. By dim moonlight through cracked windows, he stands, black cap in hand, skull shaved with symbols older than the foundations of the building which he stands in. Blood has written its stories on these London streets for hundreds of thousands of years, but today he plans to autograph the history books in the gore that he creates. Lights splash colour onto bare bedroom walls as he turns up his soundtrack. Life slips silently between the bricks around him. These blocks were built to contain all the evil society couldn't control. Subjugated, uneducated, he knew his role. But now he sits sipping at wine spilt from skin, a vintage of 1999, the day his sister was born, and his new favorite. Now, he knows his power. Pulling his hood over his head, he feels his role. Modern day warlock, night thief, grave digger, and holder of the hand of glory. Yes, because that's what brought him here. A late afternoon, hot, sweaty, and oppressive in the way only London can be. Trapped in concrete caves, he picked one, a victim. It was quick. A knock to the back of the head, and the bag was his. Slightly ripped, patches and symbols surrounding worn-out zips. There was nothing he wanted, but it was there. Worn out, dogged, no cover. Just words he couldn't understand, and scoffing, he was ready to dash it with the rest when he felt a sudden chill and clutched the book to his chest. Kicks pounding pavements, he made his way home. House stinking of weed, burnt bicarb and mold, he sat reading. And over days, reading turned to studying, and he found it. A purpose. A power. Like the heroes in comics he had read religiously. A superpower. He could stop time. He translated the text as best he could with stolen library books and the wonders of the internet. And then he began. Late nights spent listening to police radio station scanners, ears pricked for 10:57, his mantra. Successful suicide attempt. He'd gone in deep. Found where the ex-con's new releases were hiding, smoking out of his window, just quietly biding, till the time came for him to strike. And it came late on a dark, muggy Friday night. He got there before them. He was right next door. An undesirable had hung himself in number 44. He broke the back window and let himself in. Rusty hacksaw stolen from Dad's garage in his bag. Cutting through the left wrist was an epiphany. An explosion of uncomfortable feeling, the bone rubbing like when his mother had filed his nails as a child. The blade slipping in the blood as the sirens moved closer. At home, he follows age-old instructions. Using greaseproof paper instead of wax to drain the blood and wrap the hand. Hackney's not too warm, so he left the upside-down plant pot on the windowsill, knowing the gas oven would be used after the 15 days were up. When he did open the creaky metal door, the oven stank of old chips and bleach, but he placed the sacred parcel inside and waited. When removed, he melted tea lights left from an unsuccessful wooing of a local girl with easy values, and he rolled it. As he rolled the wax into the flesh, he felt its power, so here he was. Left hand closed around the wax serpent. This is his world now.
Thank you. Ich habe jetzt jemand engagiert als Ersatztochter.
Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr.
Das ist schon Wahnsinn, mit welchen Schwergewichten sie da im Ring steht.
Sie sind zu Besuch?
Ja, spontane Entscheidung. Ich habe mir den Modus freigenommen. Das war jetzt aber echte Angst. I'm Tony. Tony Erdmann. Nice to meet you. I'm Consultant and Coach.
Also das wird jetzt bestimmt die Feministin in dir ärgern, aber...
Ich bin doch keine Feministin. Dann würde ich es mit Typen wie dir gar nicht aushalten, Gerald.
I have to arrest you.
Sorry, Bogdan. My father made a stupid joke. Machen, oder was?
Wenn es um ihren Vater geht, dann bin ich nicht der Richtige.
Ach, kriegt sie doch alle!
Bist du eigentlich ein bisschen glücklich hier?
Schwören jetzt ganz schön viele Begriffe rum hier, ne? Spaß, Glück, Leben. Was findest denn du lebenswert?
Ja, da muss man das noch machen und dies und dann und währenddem geht das Leben einfach vorbei.
Von den Eltern kann man ja wirklich viel lernen, muss man sagen.
Radio Libertaire, 89, j'allais dire 95 points. Ah oui. 95 oui. points, je sais pas quoi.
Point 2 de ici, maintenant, par exemple. qui est muet depuis plusieurs semaines sur 80, la bande FM
89.4.
Allez les gars, on est sur 89.4.
Oui, Radio Libertaire. Oui, en DAB+. Voilà. C'est Radio Libertaire, The Post Non Radio Show. C'était la bande-annonce, puisque nous célébrons les femmes en cette journée, mais de toute façon, toujours et encore. La bande-annonce d'un film que j'ai revu récemment et que j'aime beaucoup, qui me fait rire et que je trouve éminemment sympathique, Toni Erdmann de Marraine à deux, une réalisatrice avec la formidable Sandra Hüller qui a eu un prix pour Anatomie d'une chute, plusieurs même,
oui.
Et qui est également à l'écran avec La Zone d'intérêt. Alors, je n'ai vu aucun des deux films, qui m'attire évidemment beaucoup moins que Toni Erdmann et, par exemple, Une valse dans les allées, qui sont actuellement sur le site de Arte, qu'on peut voir.
Arte.tv.
Ouais, il y a une petite rétro Sandra Hüller, donc... Une valse dans les allées et Toni Erdmann. Alors, Une valse dans les allées, je chercherai. Film très sympa aussi, très bien, sympa. Je chercherai de qui c'est. Et puis voilà ce que je voulais dire. Alors, Guy, on t'a pas... On t'a pas entendu.
J'ai un bon article.
On va, vas-y.
Terrain de lutte, c'est un numéro de... Du Monde Libertaire, que j'avais commencé très tôt, mais comme justement je l'avais commencé très tôt, je peux encore le prendre parce que il est de février, mais 1858, c'est le numéro. Et puis c'est sur l'ubérisation en question, sur deux cas qui ont eu lieu et puis qui vont faire plaisir, vous allez voir. Le capitalisme jamais à court d'idées pour nous exploiter nous a sorti de sa manche ces dernières années l'ubérisation, c'est vrai, depuis pas mal de temps déjà.
Oui, c'est vrai.
On a ainsi fortement suggéré à toute une frange des demandeurs d'emploi de devenir des auto-entrepreneurs. Et puis c'est une remise en cause du modèle économique des entreprises ou secteurs d'activité. Exit le salariat, mais pas le patronat. Résultat des courses, des travailleurs et travailleuses payés au lance-pierre, le code du travail allègrement jeté aux orties, page après page, avec même, la bénédiction du gouvernement. Et ça faisait autant de demandeurs d'emploi et bien qu'ils disparaissaient des statistiques de Pôle emploi. Alors un mirage vite disparu, ces nouveaux entrepreneurs ont vite compris ce qu'était en réalité l'exploitation capitaliste. Ainsi, en 2022, ce sont les livreurs de repas de Deliveroo France qui se sont constitués partie civile pour attaquer en justice leur donneur d'ordre qui a été condamné pour travail dissimulé. 120 coursiers ont ainsi pu obtenir entre 1 000 et 4 000 euros de dommages et intérêts. Ils sont désormais qualifiés de salariés de Deliveroo et non de travailleurs indépendants. La CGT avait salué cette victoire par ce communiqué. Ce jugement est la première décision pénale en France sur l'ubérisation du travail et nous espérons qu'elle va susciter des revendications pour les travailleurs d'autres plateformes moins visibles que les livreurs de repas.
On l'espère.
Voilà, on l'espère. Alors, il y a un autre secteur d'activité, eh bien, on l'espère, on le souhaite, oui. Alors,
Macron s'est quand même opposé à un texte européen sur... sur ce genre de choses, en parlant de la liberté des gens qu'auraient les gens de travailler comme indépendants. Bref. Alors que le texte était présenté par les Belges, je crois, et c'est n'importe quoi.
Oui, ben merci d'être un... Ouais, de ton appui donc c'est sur cet article. Et puis, alors, autre secteur d'activité, même problème. Alors, c'est depuis plus de 10 ans les maisons d'édition. Donc, je pense que oui, le Monde Libertaire est dedans. Là, des maisons d'édition refusent le salariat à leurs correcteurs en leur demandant d'opter pour le statut d'auto-entrepreneur. Alors, effectivement, il y en a beaucoup dans parmi les libertaires hein, qui sont travailleurs, hein, justement, correcteurs, etc. Ils sont travailleurs de ces maisons d'édition. Et. Alors tout le temps les maintenant, ils les maintiennent donc dans un lien de subordination et pour le travail à domicile, le travailleur à domicile, hein, la personne elle-même, pas de statut de salarié, salaire de misère, plus de garantie contre accident, maladie, etc. Et bien sûr, à la merci du donneur d'ordre et l'ouvrage. Alors c'était sans compter sur le syndicat général du livre et de la communication. Communication CGT, hein, la section des correcteurs, hein, qui ont toujours été de sérieux actifs combattants. Ainsi, en 2020, il y a une correctrice auto-entrepreneuse a saisi les prud'hommes de Paris pour demander la requalification de sa relation de travail avec les éditions Robert Laffont. Alors, entre parenthèses, c'est Editis, hein, en tant que droit. Effectivement, les éditions Robert Laffont, c'est super connu. Hein. Mm-hmm. La pratique des éditions Robert Laffont consiste à ne pas salarier un travailleur ou une travailleuse, comme l'exige la convention collective de l'édition, mais en l'occurrence, eh bien, à s'offrir une travailleuse sans les droits attachés au contrat de travail, corvéable à merci, mal payée, en dehors du cadre de salariat, et ce qui évite à l'employeur, bien sûr, de payer des cotisations sociales, jamais assez de profit pour les patrons, bien sûr. Donc les prud'hommes ont tranché en novembre, et chouette quand même, la relation de travail de la correctrice a été requalifiée en salariat, les éditions Robert Laffont condamnées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé et préjudice causé à la profession. Voilà. Alors, victoire historique donc pour l'ensemble de la profession, puisque ce jugement est amené à faire jurisprudence. Victoire pour la CGT qui s'attaque depuis toujours hein, aux tentatives du patronat d'exclure travailleurs et travailleuses du cadre salarial et des garanties qui l'accompagnent. Grève, arrêt de travail, attaque en justice, prud'homme, l'arsenal des moyens à la disposition des exploités est infini pour combattre ces exploiteurs. D'autres combats et d'autres victoires sont à venir. Supprimer le salariat, oui, mais commençons donc par supprimer le patronat. Encore une fois, dans le livre, comme ailleurs, seule la lutte paie. Voilà, c'est de Ramon Pino, hein, du groupe anarchiste Salvador Seguí.
D'accord. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que finalement, ça vaut le coup à chaque fois de se poser en tant qu'auto-entrepreneur, est-ce que ça vaut le coup d'être auto-entrepreneur? C'est la question que je peux me poser, parce que...
Apparemment, Serge, tout nous dit que non.
Oui.
Tout nous dit que non.
Moi, je suis animateur radio et je me pose la question. Bon, c'est vrai qu'on peut faire de l'animation radio à distance, etc.
Mais il faut un cadre.
Voilà, il faut un cadre. Et est-ce que c'est avantageux pour moi d'être en auto-entrepreneur plutôt qu'être salarié d'une radio ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais pas ce que...
L'auto-entrepreneuriat entraîne pas mal... Il faut que tu t'occupes toi-même de tes comptes.
C'est ça, le truc.
Toi-même de tout déclarer à l'URSSAF, etc., ta mutuelle, ta sécu, patati patata. Et donc après, ben voilà, t'as aucun... Et t'as aucun...
Ce qui est bien avec ce statut, c'est si t'es pas content, tu fais pas grève.
Et si t'as un problème, t'as aucun recours. Je veux dire, le patron te dit, l'employeur te dit non, j'ai plus besoin de toi. Bah, subitement, si tu n'as qu'un seul employeur, bah, tes ressources, elles se finissent direct. Mmh. Donc voilà, c'est un statut qui est absolument puant, quoi.
Ouais, d'accord.
Il faut, sinon, bosser en permanence, etc. Bah, il faudrait peut-être avoir la vie de quelqu'un qui est en auto-entrepreneuriat. Mais tout nous dit, là, dans ce qu'on entend...
Oui, bien sûr.
Ce n'est que problème et problème et problème, quoi. Oui. Et des avantages.
Oui.
Donc, voilà.
Est-ce qu'on laisse la parole à Yves ? Ou on fait une pause musicale ?
Est-ce que Guy a fini ?
Oui.
On fait une pause musicale avant le fleuve que nous déclarera Yves.
T'as fini, Guy ?
Je pourrais après, plus tard...
Non, mais je veux dire...
Déjà, j'ai fini cet article, oui.
Rien à dire, très bien. Rien à dire de plus.
Non, je crois que c'est très bien les exemples qu'il donne et que
ça a
été fait avec succès, quoi. Oui.
Et est-ce que le fleuve de Yves est un fleuve
tranquille ?
Ah non, c'est une histoire de fruits et légumes, de carottes et de tomates.
Alors,
bon, ben vas-y.
5 fruits et légumes par jour. Ah, je commence maintenant ?
On fait chaud.
Oui, vas-y, pour une fois, parce que tu ne lis pas forcément un article, tu as ta propre analyse aussi.
Alors en fait, elle est le fruit de mes lectures sur le sujet, disons. On se rappelle qu'une précédente fois, on avait observé que l'ANSES avait rendu un rapport au gouvernement qu'il n'avait pas publié. Et je crois que c'est dans le Canard enchaîné qu'il rappelait que la dernière fois où le gouvernement a refusé de publier un rapport de l'ANSES, c'était au moment de l'amiante dans les années 99, je crois. Je ne suis pas certain du dernier chiffre. Enfin, bref, dans les années 90.
Alors que l'amiante était reconnue déjà depuis 1900 et début du 20e siècle.
Ouais. Et par ailleurs, continue à être exploité dans des pays que j'ai pas envie de citer, disons.
Oui.
L'ANSES a pondu un rapport. Ce rapport avait été signé le 22 janvier par le directeur général de l'ANSES et remis au, qui s'appelle Benoît Vallet, et transmis au gouvernement. Il devait être publié début février afin d'éclairer notamment le vote des eurodéputés le 7 février. Et il pouvait ouvrir la voie sous condition au niveau OGM, ce vote. Alors, de toute façon, les députés ont rejeté le texte de la commission qui consistait à assouplir la réglementation. Donc, c'est remis à la prochaine Assemblée européenne, disons. Mais il se trouve que le Monde a réussi à avoir accès, non pas au rapport lui-même, mais à son résumé qui fait une trentaine de pages de conclusions et de recommandations majeures par les experts. Bien que le rapport complet donc de l'ANSES ne soit pas accessible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France défend l'idée de dispenser certaines plantes NGT, c'est-à-dire les nouvelles techniques génomiques.
Génomiques, oui.
Donc, contrairement aux OGM, le transfert de gènes se fait d'une plante à elle-même. Donc, s'il y a moins de modifications génétiques, moins de 20 modifications génétiques, eh bien, il n'y aura plus besoin... Et que la plante répond à des objectifs de durabilité, d'évaluation des risques pour la santé et l'environnement, la traçabilité et l'étiquetage seront plus obligatoires. Et alors, il se trouve que le rapport de l'ANSES, Enfin, avant de parler du rapport de l'ANSES, je voudrais dire quand même, à propos des fruits et des légumes, là, c'est que il y a déjà des travaux sur des plantes de large diffusion, c'est un peu le risque, c'est-à-dire les fruits, les légumes, etc., qui n'ont pas été concernés par la transformation par OGM, puisque ça a été interdit, disons, mais là, qui sont concernés. Il y a déjà des expériences en cours. Et donc, l'ANSES prend le contre-pied et plaide pour une évaluation des risques pour la santé et l'environnement de ces nouvelles plantes au cas par cas, car elle juge importante la mise en place d'un plan de suivi après chaque mise sur le marché, tant sur les impacts environnementaux de ces nouveaux OGM que sur leurs effets socio-économiques. Il précise que les ciseaux moléculaires Prisca, dont il est question pour faire ces manips, n'est pas parfaite. Il y a des effets hors cible, non désirés. Et ils disent qu'il faut porter une attention particulière à ces effets et caractériser l'ensemble de la zone du génome touché et justifier l'absence de risque lié à ces modifications collatérales. Bon, ils ont mesé, par ailleurs, les scientifiques qui ont fait ces rapports, une dizaine d'études de cas. Alors, Le Monde, dont j'ai tiré l'article, parle du riz à taille réduite, du blé à teneur plus faible en gluten, à la pomme de terre tolérante à un herbicide, à la vigne, bon bref, un certain nombre de trucs, quoi. Et ils disent que certains risques, les scientifiques disent que certains risques potentiels apparaissent de façon récurrente dans ces études de cas, notamment liées à une modification inattendue de la composition de la plante, pouvant générer des problèmes nutritionnels, d'allergénicité ou toxicité, ou de risques environnementaux à moyen et long terme, comme le risque de flux de gènes édités vers des populations sauvages ou cultivées et compatibles. Bon, il faut remarquer qu'il y a une grande diversité de plantes qu'il est possible de modifier grâce aux nouvelles techniques génomiques et que ça accroît les risques de transfert de gènes modifiés à d'autres espèces. Il note également le risque d'interaction entre animaux et plantes NGT, notamment les insectes pollinisateurs. Il précise aussi qu'il n'y a pas de risque nouveau lorsque le CRISPR-Cas est utilisé pour répliquer les caractéristiques connues en agissant sur un ou deux gènes ou quelques gènes bien décrits, mais que l'agence dit partager le constat des experts suivant lequel certains risques identifiés pour les plantes NGT sont similaires à ceux déjà identifiés pour les premiers OGM, mais que l'exposition à ces risques pourrait augmenter en fonction du développement du recours aux NGT et de l'ampleur du marché de ces plantes, d'autant que les travaux sur les plantes de large diffusion, c'est-à-dire fruits, légumes, etc., aujourd'hui non concernés par la transgénèse, sont engagés. Donc les experts soulignent l'importance d'une adaptation du cadre réglementaire actuel en matière de droits de propriété intellectuelle sur les plantes NGT également, et ils disent que suivant la nature de ces droits, leur adoption pourrait induire des déséquilibres entre acteurs économiques en matière de partage de la valeur. Chaque filière serait affectée différemment par l'introduction des NGT en Europe, notamment en raison de potentielles difficultés de coexistence entre filières NGT conventionnelles et biologiques. Bon, voilà, donc la merde dans laquelle se trouve le gouvernement avec ce rapport, et surtout la merde qui nous risque de nous tomber dessus dans les assiettes si le gouvernement consiste à considérer qu'avec moins de 20 modifications génétiques, il n'y a pas besoin de traçabilité et d'étiquetage, pour faire court.
Oui, mais il faut toujours de la traçabilité. À la moindre modification, il faut une traçabilité. À la moindre modification, apparemment.
Ouais. Pour l'instant,
il faudrait dans l'idéal.
C'est un peu grâce à José Bovet, qui était de la configuration de la Confédération Paysanne.
Oui.
C'est lui qui l'a créé, je crois, d'ailleurs.
Oui.
Et qui n'hésitait pas à aller faucher des champs de maïs ou de variétés. Où ils cultivaient des plantes OGM pour empêcher l'étude, parce qu'ils considéraient que ça risquait de se propager à d'autres plantes voisines dans les champs, etc. Donc on a échappé aux OGM, sauf pour ce qui est, je pense, des céréales.
Oui. Bon. Mais enfin, il faut se méfier quand même, parce que on n'est pas, c'est pas fini cette histoire. Il y a les gouvernements, ou en tout cas les personnes responsables de la lutte anti OGM. Anti-OGM, absolument. Oui, oui. Malheureusement, ne se font pas suffisamment entendre. Et malheureusement, on est en train, comme d'habitude, c'est le capital qui dirige. Et pour faire des produits rentables et qui vont plaire à un certain nombre de personnes parce que c'est mieux, etc., parce que c'est plus goûteux, etc.,
j'ai jamais encore vu un fruit qui soit plus goûteux que ceux il y a 15 ans ou 20 ans. Ça, il faut chercher des fruits plus goûteux. Là.
Oui, mais des fois, moi, ce que je fais, c'est que j'achète du raisin sans pépins. Alors, est-ce que c'est du raisin transformé avec un organisme génétiquement modifié? C'est bien cela, non?
S'il n'y a plus de pépins.
Il n'y a pas de pépins. Bon, c'est très pratique. Mais je me demande comment ils ont fait ça, quoi. C'est ça le problème.
Ils les ont enlevés un par un.
Il faut chercher sur Internet. Il y a de temps en temps un pépin dans ces grains. De temps en temps, on trouve.
Oui.
Ah, ils en mettent, ça, attends. Ah, ils en mettent. Ouais.
Oui. Non, mais j'avais aussi, dans la même idée, à savoir, peut-on modifier le génome même d'une plante à elle-même? Il y a eu un article dans Le Monde Science et Médecine qui est passionnant, où ils parlent de l'ADN en fait. Et ils disent que nous avons quelques 20 000 gènes mis bout à bout, ils ne constituent que 2% de notre génome, c'est-à-dire une part infime du message gravé le long de cet interminable ruban. Et donc, il y a une question qui a hanté les généticiens, c'est d'où vient le reste de notre ADN? À quoi servait-il? Alors, découverte, donc plus de 60% de notre génome est issu d'entités virales. Il s'agit notamment de créatures qui s'appellent des éléments transposables, IT, ou des transposons, des IT, on regarde leur origine inattendue et de leur stupéfiante capacité actuelle ou passée à remonter les génomes, à arpenter les génomes et à s'y multiplier. Donc c'est des morceaux d'ADN qu'on considérait comme poubelles il n'y a pas si longtemps et qui en fait sont répliqués à des centaines de milliers de fois. Est-ce qu'on sait pourquoi? À vrai dire non. Bon, voilà. Par contre, on sait ce que ça donne. Par exemple, il y a un certain nombre d'exemples qu'ont introduit ces IT. Il y a un exemple de couleur de phalène du bouleau qui ont changé de couleur suite à l'introduction d'un IT de ce genre, un gène nommé Cortex en 1819. Il y en a un second, pour prendre un exemple, c'est... Où est-ce que j'ai vu ça? C'est le placenta, je ne sais plus où je vais trouver ça. Le placenta, c'est le résultat... Bon, il ne faut pas que je m'emballe, là.
Tu peux rappeler ce que c'est qu'un IT?
Un IT, c'est des éléments transposables, ou des gènes sauteurs, ou des transposons. Ah. Ça, ils constituent plus de 60% du génome. C'est des fragments d'ADN qui ont eu la capacité de se déplacer et de se multiplier au sein du génome, en engendrant des séquences d'ADN répétées. Un nouveau-né humain sur 20 à un nouveau-né humain sur 50, donc 1 sur 20 à 1 sur 50, présente une nouvelle copie de ET dans son génome par rapport à ses parents. Donc c'est des gènes sauteurs. On n'imaginait pas que... Bon, actuellement ils sont fixés, donc dans cette partie du génome qu'on croyait inutile. Et il y en a toujours un petit bout, je crois que c'est 1%, qui bouge. On ne sait pas où il va. Et donc, il y a trois familles de IT, les rétrovirus endogènes, mais c'est peut-être pas la peine que je parle de tout ça. Il y a d'autres néotransposons et encore des transposons à ADN qui forment 2% de notre génome. Bref, c'est des choses qui concernent les spécialistes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça passe d'une espèce à une autre. J'ai un exemple qui n'est pas amusant du tout, il s'agit des koalas, qui offre en Australie une démonstration du processus mis à l'œuvre, où on assiste ébahi, dit l'article, à l'envahissement progressif d'un génome animal par un rétrovirus exogène, le CORF, qui a commencé à s'y introduire il y a seulement 50 000 ans. Bon, une paille. En Australie, trois populations de koalas cohabitent. Ceux qui ne sont pas contaminés, ceux chez qui le virus est infectieux et provoque des cancers ou des déficits immunitaires, et ceux chez qui il fait partie intégrante du génome sans effet délétère. Donc ils disent que les défenses mises en place par les cellules de ce marsupial ont été décryptées, et lorsqu'il les infecte, le corps s'y recombine avec un autre rétrovirus inoffensif déjà intégré à leur génome, et il perd peu à peu sa dangerosité. Bon, il y a quand même donc des cancers, etc. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut bouffer pour pas cher et n'importe quoi avec des nouveaux produits, des nouveaux OGM, et puis vogue la galère pour les nouveaux cancers et les nouveaux problèmes de santé des gens, ou alors on fait un peu attention et on bouffe comme d'habitude, quoi.
Voilà. Ouais.
Bon. Mmh. Donc, parce que y a les gens qui sont favorables à ces manipulations NGT, ils disent mais la nature le fait elle-même. Avant, on le faisait les OGM, c'était juste on introduisait un gène d'une espèce à une autre espèce. Là, c'est la même plante, on prend un morceau et on le déplace. Ah, c'est ce que fait la nature. Mais c'est pas du tout ce que fait la nature.
Bien sûr. Évidemment.
Voilà. Donc, voilà. Parce que la nature ne procède pas tout à fait au hasard comme il pense le penser, comme il semble le penser, par simplement notre énorme ignorance, puisque jusqu'à une période récente, donc on pensait que cette partie de l'ADN n'avait aucune utilité, quoi.
Voilà.
Or, on est en train de découvrir que ces tissus d'entités virales. C'est une équipe du Didier Trudeau qui a révélé ça le 14 février à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse. Voilà, c'est d'ailleurs 10% de plus qu'on ne le pensait, dit l'article. Bon. Alors, il est aussi question, parce que là j'ai parlé de placenta. Bon,
oui, il est aussi question que tu t'arrêtes un tout petit peu pour une pause musicale.
Ah, j'allais parler des plantes, c'est dommage.
Eh bien, tout à l'heure.
Mm-hmm.
Oh, find you spinning round and round in my brain, like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling Burgundy brew, and I find
The Post Non Radio Show ce soir avec vous dans une émission relativement
intéressante.
Mais c'est toujours bien, même si des fois c'est moins bien, quelquefois c'est plus bien.
Voilà.
Voilà, c'est comme ça.
Plus bien, c'est pas mieux.
On ne fait pas une émission hebdomadaire sans que ça soit, que ça ne soit.
On se croirait sur CNews avec des phrases comme ça.
On ne fait pas une émission.
Vous comprenez quand on est en direct,
Vous comprenez que quand on est en direct de toutes les semaines, on ne peut pas faire une émission qui soit toujours du même niveau, etc., etc. Voilà, ouais. The Post Non Radio Show Radio Libertaire à l'instant. C'était Mathilde Santing, une chanteuse hollandaise, cette fois-ci un mini-album génialissime de pop minimal.
C'est très joli, très agréable.
C'est alors là,
extrêmement, on se détend avec.
Le mini-album est superbe, il date de 1983 et je l'adore. Et il y a un autre disque que j'ai de Mathilde Sandin qui est là. C'est un maxi 45 tours de 3 reprises. Il y a une reprise de Aztec Camera, je crois, Roddy Frame. Il y a une reprise, il me semble, The Night We Call It The Day, je sais plus, c'est un vieux standard jazz, et on s'écoutera Soldier Sings de Tom Waits. Et puis Veli Jounas aussi, très cool, Mina Tindall aussi, et puis précédemment le Spoken Word sur de la guitare, c'était un disque paru sur le label The Wormhole, le trou de verre, qui est la version vinyle du label de Tapeworm, qui lui est sous-saisi dans les cassettes, label anglais, Dr. Carbon Albion and the Acne Lass.
C'est bien, on fait des exercices de diction.
Dans une minute, ça ne sera plus la journée mondiale des droits de la femme.
Oui.
Dans une minute, nous reviendrons.
Même maintenant.
Maintenant, minuit pile, nous revenons à la triste réalité. Les femmes, allez vous faire voir. Non mais c'est vrai, non. C'est un peu ça. Le reste de l'année, on s'en fout quoi des femmes. Moi je m'en fous pas.
Il faut dire, dans cette émission strictement masculine, la parité n'est pas vraiment respectée, n'est-ce pas messieurs?
Mais ouais, mais nous on est. Attends.
Sauf la fois où il y avait une collègue.
Si, nous on est LGBT nous.
Oui.
On est LGBT. Moi je suis LGBT, donc je suis un peu voilà.
Moi je suis un peu LGBT.
Moi j'ai
Il est très hébété.
J'ai une part de féminité, mais je ne suis pas une femme.
Ben
non,
oui.
Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est quand même, ça a été souvent dit, mais une journée mondiale des droits de la femme,
c'est bien.
Alors que les femmes devraient être respectées chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde. Que le temps passe.
Mais c'est pourquoi
partout,
c'est pour ça
ici,
qu'on leur donne
ailleurs,
une journée.
C'est pour pas s'embêter les autres.
C'est beaucoup d'hypocrisie.
Voilà, non mais c'est ce que je voulais dire en disant ça.
Oui, j'avais.
C'est vrai. Malgré tout, il reste énormément de chemin à faire. Évidemment que cette journée, elle a lieu d'être. Puisque, malheureusement, même dans les pays...
On va se faire allumer par les associations féministes, je te dis
on pas... On ne va pas du tout se faire allumer par les associations féministes. Elles comprendront tout à fait ce que je dis.
Pas du tout.
Il faut toujours et encore le répéter... Il faut toujours encore respecter et aimer les femmes chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine du temps qui passe ici, maintenant et ailleurs. Ce qui n'est pas le cas. X centaines de féminicides. À combien de féminicides?
Oh, je ne sais
féminicides,
plus.
Féminicides,
on en est. Plus de 100.
Espagne, c'est pareil. En Autriche, récemment, des cas absolument aberrants. On n'est pas ici. Dans le quart monde, on n'est pas en Inde aussi.
Si ça peut rassurer les femmes, les hommes s'entretuent aussi régulièrement.
Ça n'a rien à voir.
C'est pas mieux, mais bon.
Oui, non, mais les hommes sont des gros cons.
Oui, je suis totalement dans ta perspective, je suis totalement d'accord avec toi.
Les hommes sont des gros cons et surtout les hommes hétérosexuels.
Oui.
Parce que les attaques contre les guet-apens. Là, dernièrement, il y en a eu à Nice contre les gays hommes.
Je parlerai pas du placenta ce soir. Moi, c'est parti, là.
Ok, bon, d'accord. Allez, revenons. Allez. De toute façon, ici, on est, voilà, droit LGBT.
C'était un hommage à la femme, parler du placenta.
Oui.
Ok. Ah oui.
Bah, parle-nous du placenta, justement.
Oui, bah, parle-nous du placenta.
C'est la plus emblématique des innovations liées à des virus, dit l'article, c'est certainement le placenta. C'est un article de Florence Rosier dans Le Monde événement Sciences et Médecine du mercredi 28 février. Et donc, elle donne cet exemple. C'est la structure qui assure les échanges de nutrition et d'oxygène entre fœtus et mère. Il y a environ 150 millions d'années, des protéines ayant jadis appartenu à un rétrovirus, les syncytines, ont été reconverties au profit de cette structure chez les mammifères placentaires. D'ordinaire, les rétrovirus utilisent ces protéines pour faire fusionner leur enveloppe avec la membrane de la cellule qu'ils infectent et pour y pénétrer, explique Thierry Heidmann de l'Institut Gustave Roissy au CNRS.
Roussy
du CNRS à Villejuif, ces mêmes syncytines ont été recyclées chez les placentaires pour faire fusionner les membranes de certaines cellules d'origine embryonnaire et former ainsi des structures cellulaires géantes ou syncytia qui permettent le développement du placenta. Bref, ça devient très très technique, mais on s'aperçoit que ces virus qui forment des chaînes, qui se répliquent des centaines de milliers de fois, dont on pensait que ça servait strictement à rien, eh bien, ont été des virus qui ont permis donc des innovations de ce genre-là. Il y a également l'invention de la myéline qui est due à ce genre de phénomène. Il y a 450 à 500 millions d'années chez un ancêtre des vertébrés. Il y a une autre innovation majeure, c'est l'immunité à mémoire ou immunité adaptative. Bon,